Bonsoir Judith Godret.
Bonsoir.
Nous sommes avec vous pour votre livre qui s'intitule « Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux » aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette promotion pour vous ?
Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Peut-être de me paraphraser. Parce que contrairement à la promotion d'un film, j'ai le sentiment que, ou plutôt les mots sont déjà, la forme et les mots sont posés sur les pages et à l'intérieur, dans le cadre de cet ouvrage. Et du coup, c'est vrai que par moments, j'ai le sentiment de trahir, mais en tout cas de devoir me paraphraser et en moins bien, quoi. Enfin, voilà. de répondre à des questions qui deviennent une sorte de pâle miroir de ce que j'ai écrit dans mon livre. Et du coup, je suis pas sûre d'être très bonne à cet exercice-là, mais voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que, justement, on ne peut pas dire ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à écrire, justement, parce que c'était l'exercice de l'écriture ?
Bah, de toute façon, pour moi, l'écriture en soi n'est pas un prolongement de la parole qui serait celle d'une parole mondaine ou d'une parole justement dans une conversation. Non, le rendez-vous avec l'écriture, c'est un lieu très particulier, très intime et qui, du coup, n'est le dialogue que j'arrive à avoir avec moi-même ou à l'intérieur de ce cadre-là et dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent au niveau, il n'y a pas d'équivalence, ouais, et aucune rencontre, quasiment aucune rencontre, en tout cas la forme, les mêmes mots quand ils sont dits à haute voix et dans une rencontre, même voilà, je ne pourrais pas dire la même chose, non.
Ça veut dire que quand vous écrivez, vous êtes vraiment Judith. Et puis quand vous êtes en fait, le reste du temps, vous êtes en représentation ?
Non, je suis tout le temps Judith. Quand j'écris, je suis juste en sécurité, quoi. Et je suis à un endroit... d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, une des choses qui me permettait de l'écrire ou d'avancer dans l'écriture ou même de passer à l'acte ou de passer a été de me d'imaginer ou de me dire ou de garder en tête cette possibilité du retrait, c'est-à-dire de me dire que je pouvais le plus longtemps possible retirer le livre des mains de mon éditrice. Parce qu'en fait, ça me rassurait d'imaginer, pour avoir de la liberté, il fallait que je puisse me dire que le livre éventuellement ne sortirait pas, enfin que cet objet ne deviendrait pas, ne tomberait entre les mains de personne. Et c'est à cet endroit-là que je me sentais le plus libre. J'ai mis beaucoup de temps, un peu comme les gens qui ne veulent pas... bon, c'est un peu caricatural, ce que je vais dire, mais c'est un peu une image facile. Mais hein, c'est un peu comme les gens qui ne veulent pas se marier ou qui ont peur de l'engagement, quoi. C'était un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je rencontrais des éditrices et une fois, deux fois, parfois deux cafés. Et puis, je ne m'engageais pas, en fait, comme... Et le seul moyen de me lier à une éditrice, en l'occurrence, c'était de lui dire oui, mais sans vraiment signer le contrat tout de suite, quoi.
Avoir une porte de sortie, un plan B.
Ouais, exactement, ouais.
Est-ce qu'il vous a fallu aussi un peu de temps pour écrire ce livre parce qu'il fallait qu'il ne soit pas en colère ? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très remarquable dans votre écriture, c'est sa délicatesse. Alors que vous parlez d'un sujet qui est d'une grande brutalité.
Non, je pense qu'en fait, il est très en colère. Et j'espère, et merci de l'avoir trouvé délicat, parce que moi, j'ai vraiment fait... J'ai essayé qu'il ne le soit pas. Donc, mais il doit y avoir un truc qui résiste. Mais, et justement, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans cette salle qui ne l'ont pas encore lu, mais... Il est important également pour moi, justement, de ce qui est une chose qu'on ne fait pas forcément, mais de prévenir, enfin, de mettre l'accent sur le fait qu'il y a un passage dans ce livre qui est même qui peut être choquant à la lecture, pour parce que j'emploie des mots et des très crus pour décrire une relation sexuelle entre. Et donc, ce que je vais dire là, je préviens tout le monde, trigger warning. Entre une enfant et un adulte et justement la question de la violence qu'on peut ressentir en lisant ces mots, je me la suis beaucoup posée, c'est-à-dire est-ce que j'assumais cette violence d'une réalité implacable dans mon passé, d'une certaine manière, au contraire, j'ai eu le sentiment d'avoir négocié avec la violence et d'avoir eu tendance à enrober la violence d'une forme de couche, de feutrine, comme si je n'assumais pas cette violence ou que je ne voulais pas la regarder en face. Et du coup, il était important pour moi qu'il y ait... Alors, et c'est un seul endroit du livre, c'est pas, mais que les mots soient posés de manière voilà enfin et du coup ils peuvent en effet provoquer chez le lecteur presque quelque chose de l'ordre du rejet parce que quand on a, voilà quand on est on ouais
il y a une grande brutalité et je le disais dans ce que vous racontez. Et finalement, vous parlez de ce passage dans lequel vous racontez qu'un corps de petite fille de 14 ans n'est pas compatible avec un corps sexuellement, en tout cas enthousiaste, d'un homme de 40 ans. Vous dites aussi que les deux univers, de toute façon, n'ont pas lieu de se croiser, ou en tout cas, on peut s'interroger sur la définition de l'amour, entre très grosses guillemets, que peut évoquer un homme de 40 ans pour une enfant de 14 ans. Mais il y a d'autres moments qui sont d'une grande violence, en tout cas moi, qui m'ont parfaitement bouleversée, comme par exemple cette scène où vous racontez que le premier jour du tournage, cet homme vous coupe les cheveux. Mmh. Alors que vous êtes une petite fille de 14 ans, j'allais dire une jeune fille, mais en fait, on est à cet âge où vous pourriez devenir une jeune fille. Et on vous impose de ne pas le devenir normalement, alors que jusque-là, c'est votre maman qui vous coupe les cheveux. Pourtant, votre écriture reste créative avant tout. Ce qu'il y a chez vous est artistique, quoi qu'il arrive. C'est ça qui vous a aidé à tenir debout.
En fait, j'ai le sentiment que quand on est enfant, on a tous un secret. On a tous un secret. Alors, pour moi, mon secret, ou ce qui faisait que je me sentais accompagnée ou riche, c'était mon imagination et ma capacité à transformer, à poser des mots sur les choses, voire même à transformer, à créer des choses avec les mots comme des cadeaux, comme des poèmes, etc. Enfin, en tout cas, les mots m'accompagnaient dans tous les niveaux, même qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un à Noël, un poème. Quand on se sent seul, quand on est triste, quand on a le cafard, qu'est-ce qu'on fait? On écrit. Et donc c'était d'une certaine manière mon bagage, mon sac à dos, mon refuge, l'écriture. Et le problème, ou enfin dans mon histoire, telle que dans ce qui m'est arrivé, il se trouve que les adultes hommes du milieu du cinéma que j'ai rencontrés ont mis la main sur mes mots. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose dans ma personnalité aussi. Enfin, j'étais un terrain favorable et attirant également parce que j'avais ce secret-là. Parce que quelque chose m'appartenait en plus de mon corps, de mon intimité, de ce qui est de l'ordre de l'intouchable normalement, quoi. Il y avait ces mots. Et dans le fond, ça faisait de moi la petite fille un peu originale, quoi, la petite fille particulière, la petite fille. Et je crois que ce qui a été compliqué pour moi, justement, au cours de ma vie et à partir du moment où ce que j'écrivais devenait l'autre mettait la main dessus et en faisait sa possession. C'est que je n'arrivais plus à distinguer ce qui m'appartenait de ce qui ne m'appartenait pas. Mes mots m'ont toujours appartenu, mais ce qu'en ont fait les autres ne m'appartenait pas. Et du coup, c'est vrai que, dans le fond, c'est cette nouvelle rencontre avec... et c'est à chaque fois ces rencontres-là avec la créativité qui, moi, me sauvent. Et en effet, qui, du coup, font que... C'est à travers l'écriture, c'est à travers la réalisation et c'est à travers ces moyens d'expression-là aussi que j'ai rendez-vous avec moi-même et que je dis à l'autre, bah, tu vois, non, ça ne t'appartient pas. Enfin, c'est comme si, d'une certaine manière, j'affirmais inlassablement que cet univers créatif est à moi.
Il y a quelque chose qui m'a fait penser à Nikita Saint-Phal dans votre travail. C'est à la fois une œuvre littéraire, mais en même temps, il y a une mise en scène dans votre livre. Mmh. Et il y a une mise en scène artistique. Ce n'est pas que un livre, c'est plein d'autres choses. Et j'invite les lecteurs à découvrir dedans qu'il y a... Voilà. C'est pas seulement, vous n'avez pas seulement posé des éléments de référence à votre histoire, vous les avez mis en scène. Mmh. Vous avez conscience de ça? Quelle part du travail a pris cette mise en scène?
Oui, parce que c'est posé la question de la cohabitation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce livre, je voulais d'abord faire... je voulais absolument y ancrer la loi. Faire exister la loi, l'autorité. À l'intérieur de ce livre qui m'appartient, moi qui ai si souvent eu le sentiment de ne pas avoir accès à la loi, c'est-à-dire, ou plutôt de ne pas représenter la loi, c'est-à-dire que dans la relation entre l'autre et moi, c'est l'autre, le patron, c'est l'autre qui a autorité sur moi, qui a plus de pouvoir que moi. Donc je ne me positionne pas en tant que figure d'autorité dans la relation à l'autre et dans ces relations-là. Je me positionne... De l'autre côté de la table. Et justement, je voulais qu'à l'intérieur d'un ouvrage qui m'appartienne, sur lequel mon nom, mon prénom et mon nom sont écrits, dire, ben voilà, alors regardez à quoi ça devrait ressembler la loi. La loi, c'est-à-dire des mots qui sont incontestables, qui ancrent la vérité à tout jamais et qui, du coup, font figure d'autorité. Parce que ces mots-là ne sont pas les miens. Ils font partie de documents que j'intègre dans le livre, donc d'éléments d'archives, d'entretiens donnés par ces hommes dans des journaux ou dans des livres qui leur sont consacrés. Et du coup, ou alors même des interviews que j'ai données quand j'étais petite, du coup, d'une certaine manière, ces documents, puisque ça n'est pas moi qui les... Il ne s'agit pas de ma parole, ce n'est pas moi qui raconte, ça n'est pas une histoire que je raconte. Ces documents font figure d'autorité. Et je voulais qu'il y ait ces documents comme pour dire ça, vous ne pourrez pas le dire que c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, c'est là, c'est devant vos yeux et ça fait partie du passé. Et il fallait que je voulais faire cohabiter ces éléments avec également des moments qui échapperaient à toute logique d'adulte, c'est-à-dire qu'un enfant tout à coup dit va mettre un mot au milieu d'une page. Et ce mot, c'est « ordure ». Et que tout à coup, cette logique-là, ce graphisme-là, celui du mot au milieu de la page, et d'ailleurs, dans mon premier manuscrit, j'avais même utilisé une typographie enfantine pour... le livre, elle est devenue un patchwork de
typographie.
Oui, mais je me disais comment faire exister la manière dont les mots viennent aussi à l'esprit d'un enfant pour faire exister l'enfance en tant que l'enfance qui écrit, quoi. Et tout ça dans cette espèce de désordre organisé, de puzzle et de pièces qui, une fois qui assemblées, constituent une histoire qui tient debout du début à la fin. Enfin, voilà.
C'est aussi pour ne pas oublier cet enfant qu'il y a cette liste au milieu du livre qui est celle de vos souvenirs d'enfance.
Oui, et puis c'est aussi parce que c'est pour ne pas oublier cet enfant et puis pour me convaincre qu'elle a existé, puisque le livre est également une forme de quête ou d'enquête même pour retrouver l'enfant. Qui, d'une certaine manière, avec qui que j'ai perdu de vue, quoi.
Ça a marché ?
Je pense que ça marche chaque jour un peu plus, hein, et que, d'une certaine manière, ça marche aussi parce que le livre est une bouteille à la mer et que cette bouteille se transforme en clé par endroit, comme une clé pour les autres aussi. Et qu'à partir du moment où il tombe entre les mains de quelqu'un et qu'il y a une rencontre, comme même presque parfois, alors bon, ça paraît prétentieux de dire ça, mais presque comme une... peut amener une réponse, ouais, aux questions que quelqu'un se poserait sur lui-même, sur elle-même. À cet endroit-là, quand la rencontre a lieu, oui, il y a grâce à ces rencontres avec les lectrices, il y a une forme de validation de cette enfance que j'avais perdue de vue, oui. Parce que si grâce au portrait que je fais de cette petite fille, si la rencontre a lieu, ça veut bien dire aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité implacable à l'intérieur des pages de ce livre.
Est-ce que le pardon participe aussi à ça ou pas ? Certaines personnes vous ont présenté des excuses, d'autres toujours pas.
Oui, alors moi, j'attends vraiment rien de personne. Je vis pas ma vie dans l'attente. D'abord pour éviter d'être déçue, et ensuite, c'est un peu, oui, j'ai le sentiment que ça, c'est vraiment beaucoup de rendez-vous manqués tout au long d'une vie, d'attendre des autres qui viennent demander pardon. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur l'idée qu'on n'est pas coupable soi-même, surtout.
Tout à l'heure, vous disiez que finalement, ces deux hommes, surtout, qui ont été vampires de quelque chose de votre vie, de votre corps, de vos mots. La liste est assez longue, hein, puisqu'il y a aussi un appartement. Il y a beaucoup de choses. Utilisent des prétextes qui détournent le sujet. Par exemple, vous dites que... Enfin, on le lit dans votre livre, dans les interviews, que la beauté serait une raison, tout d'un coup, de pouvoir s'approprier une jeune fille. Ce qui est quand même fou, en tout cas dans la tête de ces hommes-là, ce qui est absolument insupportable comme idée. Qu'est-ce qui a changé dans l'inertie générale des gens qui ne réagissent pas autour de vous à cette époque-là? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que finalement, dans tout ce que vous dites, il y a des choses sur lesquelles on peut s'interroger.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, et alors en l'occurrence dans le livre, c'est, et par ailleurs dans mon rapport...
Je vous en prie.
Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai donc grandi, voilà, entre Bah, entre 14 et 20 ans, dans ce contexte-là, c'est-à-dire avec un homme qui avait bien, bien plus âgé que moi et qui, en effet, j'ai grandi en... Je me suis construite donc en investissant énormément. Comment dire, bah, l'idée de la beauté et de ma beauté. Et ça m'a, dans le fond, j'ai été moi-même, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que je pense que la déconstruction, elle est aussi personnelle. Enfin, je me souviens même d'un rapport aux autres femmes, moi qui étais une très jeune fille, donc qui non seulement était jeune et jolie. Et je me rappelle d'un regard que je portais, d'un regard qui, par endroits, pouvait même être méprisant. Parce que la personne avec qui je vivais participait à mon éducation, d'une certaine manière, et que du coup, il m'est arrivé de poser un regard sur les autres personnes du sexe féminin, un peu de privilège, quoi, un regard voilà, de condescendant, même par moments, ou en tout cas... Et aujourd'hui, puisque justement, à cause de ma prise de parole, d'une certaine manière, c'est comme si j'avais... il y a eu un défantasme qui c'est un fantasme à l'envers, c'est-à-dire qu'avant j'étais un fantasme, maintenant je suis le contraire du fantasme, c'est-à-dire que je suis plutôt le truc qui fait peur, quoi. Ça m'a fait réfléchir également à cet endroit-là de la vie d'une femme, c'est-à-dire bah c'est qu'est-ce qu'on est quand on n'est plus investi de ce rôle-là, celui de l'objet fantasmatique, qu'est-ce qui me reste en fait, ou qu'est-ce que j'ai envie d'être et comment je le vis, etc. Parce que dans le fond, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui dans le enfin après ma prise de parole et il se trouve que quand j'ai fait un discours donc au César, et que j'ai pris la parole et que j'ai porté plainte et que j'ai fait tout, et pardon pour tous ceux et toutes ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, du coup voilà, il se trouve que ma parole s'est inscrite à un endroit du rapport au monde du cinéma, du rapport aux hommes qui est dans un endroit comment dire, peut-être de pas de l'adversité, mais qui forcément crée une prise de position qui est pas forcément celle qu'on attendait. Et du coup, je justement dans mon rapport aux autres femmes, je me sens beaucoup mieux puisque de ne pas être investie de ne pas devoir représenter cette espèce de fantasme et de moi-même me poser des questions d'à quel endroit de est-ce qu'on est assez jolie, est-ce qu'on est assez ci, est-ce qu'on est ça. Ben maintenant, vous voyez, je suis à l'intérieur d'un livre et je me sens beaucoup mieux.
Parce que donc, en février 2024, pardon, vous portez plainte.
2023.
2023, vous portez plainte.
Non, attendez, on est en...
2024.
Oui, vous avez raison.
Ouais. Ouais. C'est pas très grave. En tout cas, il y a 2 ans, à peu près, vous portez plainte contre ce réalisateur Benoît Jacquot, également contre Jacques Doyon. En même temps, vous êtes sous l'effet d'une prescription des faits. Et depuis, vous avez pris la parole, effectivement, dans différents cadres, notamment auprès de la Haute Autorité de la Santé, notamment auprès de la Brigade des Mineurs. Vous avez été interrogé, et non pas interviewé, mais interrogé sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé le moment où vous avez décidé de porter plainte, le moment où vous êtes parti à pied de chez vous pour aller porter plainte? Comment ça s'est passé, ce moment-là?
Alors, il n'y a pas eu le moment, mais il y a des moments, et des moments comme autant de pièces d'un puzzle, justement, et en même temps, en tout cas, s'il y avait un moment dont je me souviens comme étant... un moment dont, auquel je, vous savez, on, je, il m'arrive de repenser parce que dans le fond, au moment où j'ai passé ce coup de fil où je cherchais une avocate, je savais ce que je voulais, mais je ne me formulais pas pourquoi je le voulais comme ça. Mais ce que je savais, c'est que je cherchais une avocate pour enfants et pour m'accompagner dans ces démarches. Et quand j'ai appelé quelques avocates, et dont finalement celle qui m'a accompagnée. Et quand elle a décroché et je me suis présentée, et je lui ai dit, je cherche une avocate pour une enfant. Et elle m'a dit, mais qui est cet enfant? Et je lui ai dit, ben, c'est moi. Et elle m'a dit, mais vous n'êtes pas une enfant. Et il se trouve que je lui ai expliqué que, ben, en tout cas, si, il me fallait une avocate spécialisée pour enfants. Et que c'est pour cet enfant-là, que cet enfant-là avait besoin d'être représenté. Et qu'il fallait absolument, donc je trouve quelqu'un qui sache faire ça. Je pense que d'une certaine manière, c'est comme si, à l'endroit de ce besoin très précis ou de ce truc que je lui ai dit et que j'avais pas réfléchi vraiment à pourquoi, c'était pas intellectualisé, c'était vraiment complètement spontané, quoi. Je me dis que en fait, ça, voilà, bah ça s'appelle prendre soin de soi, en fait. Et dans le fond, je souhaite à tout le monde, ensuite, ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique, mais à un moment de notre vie, d'être un bon parent pour nous-mêmes ou une bonne amie et de pouvoir passer un coup de fil comme ça. Ouais.
Est-ce que ça fait écho à ce que vous écrivez dans votre livre qui dit que finalement... vous vous retrouvez dans une situation où vous savez que vous devez partir, mais vous n'y arrivez pas. Mmh. Et où vous avez bien conscience que vous êtes en train de prendre soin d'adultes et que vous ne supportez pas l'idée que ces adultes souffrent. Mmh. Il y a cette phrase, pareil, qui est dans la liste des choses qui sont très bouleversantes dans votre livre, où vous dites que à un moment donné, vous réussissez à quitter Benoît Jacquot, puis en fait, il vous appelle en larmes et vous dites, pour une enfant, c'est terrifiant, un adulte qui souffre, qui a du chagrin. Et donc, quelque part, il vous tient avec cette bonne trouille, là, en fait. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, ça fait écho à ça. Ça fait écho à un temps où, en fait, on vous a demandé de prendre soin d'adultes.
Oui, et d'ailleurs... ça s'appelle l'inversion des rôles. Et il y a Aurélien Ferenczi qui a écrit un texte, un texte très instructif là-dessus. Et oui, c'est-à-dire que en fait, mon réflexe, ma terreur, c'était de faire mal à l'adulte en l'abandonnant. Et en l'occurrence, et d'ailleurs, c'est aussi, ce que j'essaie de raconter de la manière la plus, la moins complaisante possible, ou en tout cas de la plus transparente, la plus à l'endroit d'une vérité que j'espère être... d'une honnêteté absolue, c'est de raconter comment, justement, pour toutes les personnes qui se disent « Mais comment c'est possible d'être resté 6 ans ?» En fait, c'est une cage sans barreaux. Hein. C'est pas une cage avec des barreaux. La porte n'est pas fermée à double tour. Les barreaux... l'emprise, qui est un mot que j'ai découvert très tard, vraiment, mais très, très, très tard... dans ma vie, est quelque chose qui vous cloue au sol et qui ne nécessite pas matériellement de qu'il y ait une porte de prison entre vous et le monde extérieur. En ce qui me concerne, puisque je vivais depuis mes 14 ans avec quelqu'un qui, du coup, s'était inscrit à un endroit de ma vie comme une figure paternelle, enfin, un membre de ma famille, enfin, il était devenu ma famille. l'idée de d'ébranler sa solidité me terrorisait. De la même manière que après être parti, après avoir finalement réussi à partir, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir mettre un pied l'un devant l'autre et que le monde dans lequel pourtant il semblait que je me débrouillais depuis mes 14 ans puisque je payais mes impôts, que le monde était une sorte d'univers abstrait et terrifiant puisque le cadre avait disparu. Et il a vraiment fallu que j'aie des béquilles. Enfin, pour marcher. Enfin, que ça. Vraiment, je pense que ce genre de relation à un endroit d'une vie qui se construit comme ça, comme l'empreinte laissée, le tatouage. Sur l'épaule dure toute la vie. Enfin, il y a quelque chose qui ne se défait pas, en fait.
Oui, deux conséquences invisibles de l'emprise qui sont aussi insupportables que pérennes et qui vont du stress aigu à l'hypervigilance, à des tas de choses. Aujourd'hui, en fait, on décèle plus facilement, en tout cas quand on se penche sur la question. Mais à cet endroit, il y a autre chose dans votre livre qui fait un écho. C'est édifiant pour le lecteur, c'est celui du déplacement du sujet. C'est-à-dire que dans ce livre, au titre sur lequel vous faites référence à la Brigade des mineurs, puisque cette phrase, vous l'indiquez, se trouve à l'intérieur de la salle de la Brigade des mineurs, vous dites aussi que vous incarnez le désordre. Et dans votre livre, vous dites, bon, alors, excusez-moi, c'est peut-être un peu confus, mais bon, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, donc on va essayer d'y aller ensemble. Et en même temps, vous essayez de mettre un peu d'ordre. Et notamment dans cet ordre, dans ce rangement, il y a aussi le fait que le système, de toute façon, ne sert pas le sujet puisque vous êtes émancipé sans même avoir vu un juge. Le sujet, c'est aussi que votre histoire fait écho à un sujet de société puisque vous racontez dans ce livre que quand on tape Judith Godrej sur Internet, les questions qui reviennent, c'est pourquoi les parents n'ont rien dit, alors que la question devrait être pourquoi ce type existe encore et peut encore faire des films. Et donc, Vous montrez comment le sujet est déplacé.
Mmh. Oui, et ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est soit pourquoi les parents n'ont rien fait, soit pourquoi est-elle restée si longtemps. Donc en fait, c'est soit moi qui suis coupable, soit mes parents, mais en l'occurrence, celui qui est responsable,
il n'est pas dans la liste.
Non. Et alors, il y a un endroit où honnêtement... parce que d'abord, voilà, ça fait avancer que de se poser des questions. Alors, en même temps, il ne faut pas passer sa vie à essayer de comprendre les autres, sinon on ne s'en sort pas. Mais il y a un endroit où je me suis posé la question de savoir quelle était, d'où venait cette obsession. Cette obsession du détournement de la colère, hein, ou en effet, comme vous le dites, du sujet. Et je me suis dit, tiens, peut-être que dans le fond, peut-être que la réaction de personnes qui sont sur la défensive, en fait, peut-être qu'il y a un endroit où c'est tellement... où ça les angoisse, et où du coup, ils se disent... ou alors, il y a un truc où ces personnes pensent, sans le savoir, à leurs propres enfants, et se disent... mais qu'est-ce que je ferais moi? Mais ne se le formule pas. Ou est-ce si ça arrivait à ma fille? Ou ils disent du coup, et où étaient les parents? Enfin, je me dis qu'il y a quelque chose qui me semble être presque comme une espèce de réaction de d'anticipation d'une culpabilité ou de je sais pas. Il y a quelque chose de particulier parce que il me semble qu'il y a beaucoup de réactions qui sont une réaction de personnes qui plutôt que de se dire qui est une réaction qui est sur la défensive. De quoi ces personnes se défendent-elles, en fait, de ce qui pourrait leur arriver, de leur propre, peut-être, incapacité, de l'angoisse que ce serait de ne pas arriver à protéger son enfant. Parce que c'est une angoisse réelle. Moi, la première, j'ai des angoisses liées au fait de ne pas être capable ou de ne pas être là au moment où il faudrait protéger mon enfant ou de ne pas savoir ce qui est en train d'arriver à mon enfant. Et je me dis que peut-être c'est une façon aussi de se protéger que de déplacer le sujet ou d'être sur ce sujet-là qui est celui des parents. Ensuite, je pense que bon, il y a par ailleurs ce que j'ai découvert malheureusement pour moi sur les réseaux, des hordes et des meutes de mascus et d'organisations de comptes Instagram qui n'existent pas vraiment, qui sont des gens qui ne sont pas des gens mais qui sont des gens et qui eux alors pour qui sont des soutiens des agresseurs en règle générale, enfin,
oui, oui,
et qui arrivent en meute pour vous attaquer sur ce, comme si à force de répéter, comme si cet écho et comme si cette fanfare qui disait à l'infini et toute la journée les parents faisait qu'au bout d'un moment le son, le seul et unique son, ou en tout cas le son principal, c'est-à-dire l'agresseur, aller s'effacer et même mourir sous le bruit de cette fanfare qui essaierait de dévier la lumière du projecteur pour la voilà. Et c'est intéressant comme organisation d'un autre système de protection du patriarcat et des agresseurs. Enfin, intéressant jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, on ras-le-bol. Mais bon, il se trouve que je me pose la question et que je me la pose dans le livre aussi, parce que c'est systématique. C'est systématique. Et donc... Et par ailleurs, il se trouve que ça c'est extrêmement bénéfique pour la défense des hommes en question et des agresseurs, puisque eux disent bah, attendez, mais on me l'a donné et toute la famille était donc dans le fond, bah, c'est moi, je n'ai fait que prendre ce qu'on me donne, ou elle s'est donnée à moi, elle, enfant de 14 ans. Donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'allais pas lui dire non. Enfin, donc oui, de toute façon, le coupable n'est pas le
n'est pas désigné.
Voilà.
Parce que, comme vous le dites dans votre livre, bien entendu, c'est parfaitement cohérent d'imaginer qu'une petite fille de 14 ans, en rencontrant un homme de 40 ans, projette sur cet homme toute sa vie de famille en se disant « c'est un mari idéal, c'est d'une évidence crasse ». Vous le démontrez dans votre livre. Vous avez des pages très jolies sur vos parents, parce qu'elles sont, pour le coup, j'allais dire neutre, par rapport au reste de votre livre qui est parfois très poétique, parfois très cru, en tout cas créatif et littéraire, sur vos parents, qui arrive à la fin, il y a des pages assez neutres dans lesquelles vous les placez à l'endroit des parents, ni plus, ni moins. Ça veut dire que vous avez, vous, une sorte de paix de ce qui est autour de vous aujourd'hui pour qui doit être à la bonne place. Vous n'avez plus de doute. Enfin,
écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans la pièce quand un enfant est avec un adulte et que la porte est fermée, ce qui s'est passé dans ces pièces-là, au moment où ça s'est passé, j'étais seule dans cette pièce avec cet adulte. Il se trouve que un enfant, acteur ou pas, ne devrait pas se trouver seul dans une pièce avec un adulte dans quelque contexte que ce soit.
Qui ne sait pas rester à sa place d'adulte.
Oui, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et en l'occurrence, les parents ne peuvent pas le savoir à l'avance.
Absolument.
Et la société doit savoir qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Et donc, quand un enfant, par exemple, passe un casting, quand une petite fille fait un casting, ou quand elle est invitée chez un réalisateur pour répéter, ça ne doit plus être possible. Et ça, c'est à la loi, c'est à l'autorité de s'en charger. Maintenant... comment dire, que le système, que la société soit défaillante à un endroit, que que les encadrements étaient défaillants, que les réactions du monde du cinéma étaient défaillants, que il y a eu des défaillances dans mon histoire à tous les endroits. Et il y a eu des défaillances, oui, de la part de mes parents. Il y en a eu. Mais donc, en fait, c'est que mon livre n'est pas un... Et il n'y a à aucun endroit, c'est un... Comment dire un, justement, dans l'idée même de remettre les choses à leur place, je ne...
C'est pas un jugement.
Non.
Absolument.
Voilà. Et je ne dis pas... l'idée n'est pas d'absoudre, ou je ne sais pas quel serait le mot, de la responsabilité, voilà, de maintenant, en effet, j'essaie du mieux que je peux d'exposer les faits, voilà, et dans toute leur...
réalité.
Ouais, et puis fragilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais complexité, imperfection... voilà, ouais.
Et en cela...
Honnêteté.
Oui, aussi, il y a une grande loyauté hein, dans votre écriture, en cela que, par exemple, vous écrivez à un moment donné, et c'est assez fou, vous dites, non mais attendez les gars, moi je suis pas une fille bien. Vous écrivez ça.
Mm.
Et vous dites, non, moi je suis pas parfaite non plus, attention. Et donc, on voit bien dans votre livre que vous avez... en tout cas dans l'écriture, hein, une forme de tranquillité pour dire on va mettre les choses bien à leur place. Il ne s'agit pas de dire que moi, je suis parfaite. C'est pas le sujet, ce n'est pas la perfection.
Mmh.
Ce n'est pas ça.
Mmh.
Le sujet, c'est la loi, l'interdiction. Voilà. Donc, c'est en cela que vous êtes vraiment d'une grande justesse dans votre écrit. Et au passage, je vous en remercie. Mais quand même, alors du coup, comment on vit la prescription avec un truc pareil ?
Comment on vit la prescription ? Ben, par moment comme une injustice, et puis par moment, ça arrive moins souvent. Dans le fond, il y a une certitude, c'est que je ne sais pas ce que ce serait si j'étais pas prescrite. C'est-à-dire que déjà, mais le niveau de violence dans la machine d'écrasement, le niveau de puissance de la machine d'écrasement de la parole est tel. Alors que je suis prescrite. Donc, dans le fond, on pourrait se dire que je ne peux pas... comment dire ? Que je n'ai pas les moyens de faire... Vous voyez, de... Je sais pas comment... Il y a un endroit où je ne suis pas... Ce n'est pas que je suis inoffensive, mais en tout cas...
Enfin, vous êtes moins menaçante que les menaces que vous recevez. Hein.
Voilà. Et donc, les preuves en question, qui sont d'une certaine manière... Bah, du coup, autant de bouteilles à la mer ou autant d'objets flottants qui arrivent ou pas à bon port et qui se retrouvent du coup dans un livre. Mais c'est vrai que, dans le fond, il y a une chose que je ne sais pas. Enfin, pardon, ce que j'essaie de dire, c'est que ce que je ne sais pas, c'est quelle serait du coup la machine de guerre mise en place par ces hommes-là si je n'étais pas prescrite. Parce que déjà, je suis mise en examen... pour diffamation. Enfin, je veux dire, vous voyez, si j'étais pas prescrite, alors ce serait quoi ? Enfin, vous voyez, il y a une telle puissance. Hein. Le boomerang revient tellement fort que est-ce que j'aurais la force ? Est-ce que j'en serais capable ? Peut-être le lundi, oui, mais le mardi, non, quoi. Je sais pas.
En tout cas, vous avez la force, vous le dites dans ce livre, d'incarner aujourd'hui, bon ben voilà, un débat qu'il faut soulever. Un débat qu'il faut incarner. Et vous dites, attendez, les gars, moi, je rêvais pas de ça. Hein. Je rêvais pas d'une vie où tout d'un coup, je raconte ma vie privée. J'ai pas rêvé de ça. J'ai pas envie de ça. Mais ben, j'ai pas le choix parce que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que vous prenez à témoin la société. Nous tous, nous sommes concernés par ça.
Oui, enfin, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on est privilégié comme je le suis, qu'on est invité à parler dans des endroits qui font de vous un être de qu'on admire parce qu'on est sur une estrade avec au milieu de personnes connues et que ça fait de vous, oui, qu'il y a toute cette aura. Et quand on a cette chance-là, et d'ailleurs la chance d'être publié, la chance d'être
produite au cinéma, puisque...
voilà, comment ne pas utiliser ce privilège et l'art, en l'occurrence, comme arme de combat? C'est-à-dire comment s'inscrire à un endroit de la société comment, quand on est au courant, quand on sait et quand on ne peut plus vraiment vivre sa vie en faisant semblant de ne pas savoir, quand on a reçu autant de l'aide, de témoignages, et que c'est comme une fenêtre ouverte sur un monde qu'on ne connaissait pas, parce que moi-même, j'étais dans le déni, comment vivre sa vie sans se mettre à l'œuvre?
Dans votre livre, vous dites aussi, vous faites écho au discours que vous avez prononcé à la cérémonie des Césars, dans lequel vous dites « mon passé ne passe pas ». Et vous dites aussi, attendez, au cinéma, on incarne des héroïnes ou des héros du quotidien. En tout cas, des personnages très forts qui incarnent des histoires de société. Et alors quoi? Dans la vraie vie, on ne le ferait pas. Est-ce que votre regard sur le cinéma a changé aujourd'hui, Judith Godrèche?
Ben... Je ne sais pas, parce qu'en même temps, moi, ça m'ennuie de juger les autres dans la mesure où je vois très bien ce qu'il y a à perdre. Je ne sais pas si je pourrais donner des conseils. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que j'aurais envie de donner des conseils aux autres pour leur dire il n'y a rien à perdre. C'est faux. Il y a des trucs à perdre.
Vous avez perdu beaucoup ?
Bon, je pense qu'à un endroit de la possibilité, en effet, que certaines personnes puissent projeter des histoires sur moi, c'est compliqué de projeter des histoires sur celle qui fait des histoires, quoi. Oui, à un endroit, je pense que j'ai le sentiment d'être un tableau déjà bien trop peint, quoi.
En même temps, vous avez assez de créativité pour finalement lancer des projets, vous. Et donc, c'est ça votre ressort aussi aujourd'hui, c'est d'avoir la joie de pouvoir finalement profiter enfin de votre créativité sans que personne ne vous pique vos idées et vos écrits.
En tout cas, j'ai le sentiment d'être à ma place quand j'écris ce livre ou quand je réalise ma série ou j'ai le sentiment de ou mon dernier film, j'ai le sentiment d'être à ma place. Ensuite, j'ai pleinement conscience que cette place est fragile et qu'elle, tout en étant privilégiée.
Qu'est-ce que ça a changé, ce sera ma dernière question, de passer 10 ans aux États-Unis?
D'abord, ça m'a permis d'écrire en étant loin la distance m'a permis de trouver une liberté dans l'écriture et l'éloignement du pays où dans lequel je parle, donc ma langue maternelle, et le fait d'écrire en anglais, j'avais écrit, donc réalisé une série que j'ai écrite en anglais. Le fait d'écrire en anglais m'a donné beaucoup de liberté, m'a permis d'être plus libre et de me sentir, voilà, et de et aussi de comme je travaille depuis que j'ai en fait 9 ans, mon premier film en France, et que j'ai eu le sentiment de que ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais bon, comme beaucoup de gens, mais en tout cas, c'était tellement imbriqué, mais surtout à un endroit où je n'arrivais pas à respirer comme j'avais envie à me développer, ou en tout cas à être moi-même. Je me suis sentie moi-même loin de là où, dans le fond, où j'avais une carrière qui était la plus établie, et en repartant presque à zéro, ou en tout cas en perdant un peu tout ce que j'avais acquis. Moi, je me suis retrouvée là-bas. Ouais.
Et en étant un peu loin du bruit, vous avez retrouvé plus facilement la petite Judith Godrèche ?
En étant loin d'un certain carcan qui était ce que j'étais censée être aux yeux de mon milieu, ou ce que j'avais le sentiment d'être, en tout cas de toutes ces définitions, et j'avais le sentiment de ne correspondre à aucune. Donc je suis allée, voilà.
Merci
me trouver ailleurs.
Merci pour ce texte. Merci Judith Godrèche pour votre courage.
Merci.